France Info.
Thierry Soler, député des Hauts-de-Seine, député Les Républicains constructifs et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Thierry Soler.
Bonjour.
Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est votre ami, d'une certaine manière on peut le dire comme ça, était l'invité de l'émission politique de France 2 hier soir, on l'écoute.
La critique essentielle qui vous est faite autour de ce budget, c'est qu'au fond, vous parlez aux riches.
Non, je crois pas.
Vous parlez aux heureux, vous parlez aux start-upers, vous parlez à ceux qui parlent trois langues et pas aux autres.
La description que vous faites de ce budget, c'est la description de ceux qui ont envie de le critiquer. Vous n'évoquez pas l'ensemble des mesures que nous prenons pour les plus fragiles.
Alors, on va parler du budget, là. Ce son est arrivé un petit peu vite. Vous l'avez trouvé comment, Édouard Philippe, hier soir ?
Bon, et notamment sur toute cette partie-là, au fond.
Oui.
Le budget, c'est pas pour les gens qui vont bien. Enfin, ceux-là, au fond, ils ont moins besoin peut-être de l'État que d'autres. Quand vous avez pas de boulot, il y a des millions de Français qui n'ont pas de travail et le chômage n'a fait que monter. Quand vous vivez sous le seuil de pauvreté, quand vous n'arrivez pas à vous loger parce que les prix sont très élevés, c'est là où vous avez besoin de réformes. Enfin, celui qui va très bien, qui parle trois langues et qui est mondialisé toute la journée, c'est pas lui qui subit de plein fouet cette difficulté. Et donc, non, l'action publique, ce budget de l'État 2018, il est fait pour réparer ce qui ne va pas bien et prendre des mesures puissantes, qui souvent sont des mesures qui n'ont pas été prises ni par la droite, ni par la gauche depuis 20 ans, et qu'on n'a pas essayé. Donc on avait dit, vous voyez, contre le chômage, on a tout essayé. Non, on n'avait pas essayé ce qui marche ailleurs en Europe, et c'est ça qu'est en train d'essayer de faire ce gouvernement. J'espère que ça fonctionnera. Et j'espère que ça donnera des résultats, c'est pour ça qu'on fait de la politique.
Alors on est de plein pied dans la discussion, vous avez une manière un peu curieuse de présenter le budget, si je peux me permettre, parce que la critique qui est faite, et c'est l'extrait que l'on a entendu porter cette critique, c'est un budget qui est fait, disent ceux qui n'aiment pas ce budget, pour les riches. Et on prend notamment l'exemple de la suppression partielle de l'impôt sur la fortune, réduit maintenant en valeur immobilière, ce qui fait que tout ce qui est, comment on appelle ça, des signes extérieurs de richesse ne sera plus taxé. C'est ça la critique qui est faite à ce budget.
Alors,
un budget pour les riches.
Je vais être dans la plus grande transparence sur ce sujet. Je ne le paie pas, hein, l'ISF. Donc, ce n'est pas un truc personnel. Au fond, les riches, quand ils sont là, quand ils sont en France, et quand ils consomment, quand ils payent des impôts, ils participent formidablement à faire bouillir la marmite générale. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait en France le maximum de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui possèdent beaucoup de biens, qui consomment, parce qu'à chaque fois, c'est de la TVA, qui emploient des collaborateurs, qui achètent des maisons, qui achètent de tout cela. Ça fait de la TVA, ça fait de l'impôt sur le revenu, et puis ça fait de l'ISF sur la partie immobilière. Aujourd'hui, la vérité, d'ailleurs moi j'ai jamais vu une manif dans les rues de Neuilly, vous voyez, la désespérance, je la vois rarement dans ces rues-là. La vérité c'est que les Français qui possèdent le plus, parce que c'est tellement discriminant par rapport à ce que les politiques publiques qui sont mises en œuvre chez nos voisins directs, ben ils partent. Aller à Londres, c'est une des plus grandes villes françaises. Vous avez des quartiers entiers où on ne parle pas anglais dans la rue, vous entendez parler à Lexington que français. Et donc moi ce que je souhaite, c'est pas un problème de faire de cadeaux à qui que ce soit, c'est de faire des cadeaux aux Français, à la France, à nous tous, que des gens qui gagnent énormément d'argent, eh ben soient ici à payer tous les mois de l'impôt sur le revenu, soient ici à payer, à consommer beaucoup parce qu'ils sont aisés, et que ça fasse des recettes de TVA, qu'ils soient là à participer à l'équilibre de nos comptes publics. Et aujourd'hui, tout a été fait pour qu'ils partent. Donc franchement, quand je vois des régions qui sont sinistrées, ben je préférerais que les grandes fortunes de cette région ne soient pas parties à Londres, à Bruxelles ou à Singapour, et qu'elles soient encore en France.
Donc vous allez le voter, ce budget ?
Ah bah écoutez, d'abord, il vient d'être présenté médiatiquement, on va le travailler. Mais je pense qu'il y a des éléments dans le budget qui sont puissants et qui sont cohérents avec ce qu'essaye de faire ce gouvernement.
Vous n'êtes pas en état de dire ce matin, Thierry Soler, puisque vous êtes député, si vous allez voter ou pas ce budget ?
Par principe. Je pense que je le voterai, j'espère que je le voterai.
Parce que si vous le votez, après vous pouvez plus dire, c'est l'intitulé de votre groupe, c'est ça, vous êtes plus dans l'opposition là si vous le
votez. Non mais l'intitulé de mon groupe c'est pas d'être dans l'opposition, l'intitulé de mon groupe c'est d'être constructif.
Mais on vous a demandé,
s'appelle les constructifs.
Le règlement de l'Assemblée vous demande de vous déterminer, vous avez dit, nous sommes dans l'opposition.
Oui, on doit
Si vous votez le budget c'est fini. Hein.
Oui, enfin vous savez, ça c'est un vieux monde aussi.
Hein.
Non, moyennement, c'est un vieux monde aussi, où parce qu'on est dans la majorité, on doit voter tout le temps, sinon on est un frondeur. Donc ça veut dire que c'est la négation même de l'idée de ne pas être d'accord sur un point important ou sur un point secondaire. Et puis quand on n'est pas dans la majorité, il faut s'opposer à tout le temps.
Non,
sinon on n'est pas un bon opposant.
Si vous votez le budget, vous êtes plus dans l'opposition.
Et, attendez, moi je voterai le budget en fonction d'un seul critère.
Vous êtes un peu embêté.
Un seul critère.
Allez,
est-ce que ce budget est bon pour le pays ? Voilà. Est-ce que je
l'amenderais ? Aujourd'hui, vous diriez plutôt que oui.
Bah écoutez, dans la présentation qui est faite, je trouve, et je l'ai déjà dit...
En tout cas, on n'a pas entendu de critique.
On peut rentrer dans le détail.
On va rentrer
de différences que je souhaiterais moi revoir appliquées plus rapidement et plus fortement. Je vais vous le dire tout de suite, si vous voulez. Je pense que tout ce qui est fait va dans le bon sens, et que notamment, ils sont en train d'essayer de faire ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans. Par contre, il y a une réalité, je crois que le gouvernement s'en rend compte, bien sûr, c'est le niveau de pauvreté qui a explosé dans le pays. Et notamment, tous ces Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et parmi eux, notamment, toutes les personnes âgées qui vivent au minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, à l'heure où je vous parle, il est à 803 euros. 803 euros, quand vous êtes âgé, vous ne pouvez pas dire travailler plus pour gagner plus aux personnes âgées. En ville notamment, ça devient impossible de bien s'alimenter et de bien se chauffer l'hiver. Et donc, il y a un effort important. Ils le font. Le président de la République s'était engagé pendant la présidentielle à l'augmenter de 100 euros sur la durée du quinquennat. Et aujourd'hui, je comprends qu'il y a même une forme d'accélération. J'ai eu l'occasion d'en parler avec différents membres du gouvernement et que ça va être 35 euros dès cette année. Mais moi, je pense qu'on devrait aller encore plus loin sur le sujet. Parce que 35 euros, c'est très bien. Quand on en gagne 803, ça fait déjà ça de plus. Mais au fond, il y a tellement... à être plus solidaire avec cette catégorie.
Vous allez déposer des amendements dans ce sens?
Donc moi, je souhaiterais, oui, mais c'est plus cohérent que ça, parce que si vous l'augmentez vraiment, il faut bien qu'il y ait la ressource en face, et donc il faut se mettre d'accord sur ce sujet. Mais moi, je vais peser au maximum, je le fais depuis des années, et c'est ça aussi une droite sociale. C'est une droite qui fait des efforts, mais c'est une droite qui surtout aide formidablement ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles. Et nous, vous voyez, on se gargarise en France d'être un pays de solidarité. La vérité, c'est qu'on a abandonné souvent dans des situations absolument désespérantes les vrais plus fragiles. Et ça, franchement, c'est surréaliste.
Vous restez avec nous, Thierry Soler. Il est quasiment 8h40, à 10 secondes près. Voici l'essentiel de l'info. Agathe Mahué.
De Google à Facebook, les géants du web pourront-ils continuer à contourner l'impôt en Europe? Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Tallinn pour un sommet consacré au numérique. C'est une première. Depuis des semaines, Paris milite pour une nouvelle taxation de ces GAFA. Mais certains membres de l'UE sont réservés. L'Irlande, elle, est même tout à fait hostile à ce projet. La détresse d'un père et d'une mère face aux caméras. Plus d'un mois après sa disparition, les parents de Maëlys se sont exprimés hier. Pour la première fois devant la presse, ils appellent le principal suspect, un homme de 34 ans, toujours écroué, à révéler ce qu'il sait. Et puis le référendum pour l'indépendance de la Catalogne, dans deux jours maintenant. Pourtant, Madrid continue de faire obstacle. Quelques 2,5 millions de bulletins de vote saisis hier par la garde civile dans un entrepôt près de Barcelone. Et toujours la foule hier dans les rues de la capitale catalane. Des dizaines de milliers de lycéens et d'étudiants ont manifesté.
France Info. Le député des Hauts-de-Seine, Thierry Soler, est l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy.
La droite sociale essaie d'aider les plus faibles. Alors, ça ne vous a pas échappé, Thierry Soler, des retraités qui ne gagnent pas beaucoup d'argent défilaient hier dans les rues de Paris parce qu'ils ne sont pas contents, mais pas contents du tout de la hausse du CSG, de la CSG pardon, qu'a décidé pour eux le gouvernement. On écoute.
Moi, ça me fait 100 euros de moins par mois. Et j'ai travaillé pendant plus de 40 ans. Enfin, voilà, il a l'air pour qui nous prend là. On l'a pas volé notre retraite. On l'a pas volé, on l'a gagné. Vous savez ce que ça veut dire, gagner.
Alors, à partir de 1 200 euros, la CSG augmentera pour les retraités. Là-dessus, qu'est-ce que vous en dites?
Bon, d'abord, le choix de général de faire peser l'augmentation, François Fillon, lui, c'était la TVA. Donc, c'était sur tout le monde. Là, c'est sur la CSG, et en compensation d'avoir une diminution pour les salariés des charges salariales. Et donc, un salarié, globalement, entre sa hausse de la CSG et puis la baisse de ses charges salariales, il va avoir un pouvoir d'achat supplémentaire.
Là, vous parlez donc des
salariés.
Là, on vous parle
des retraités. Et j'arrive tout de suite aux retraités. Pour les travailleurs indépendants, ça fait longtemps aussi qu'on en parlait, même chose. Alors après, les retraités. Moi, je pense, objectivement, que comme jamais, il y a une différence absolue de traitement, enfin aujourd'hui de réalité de situation pour les retraités en règle générale et les actifs. Les retraités concentrent d'ailleurs tous les biens immobiliers, toutes les richesses. L'immobilier a explosé. Le pouvoir d'achat aujourd'hui...
Pas les retraités qui étaient dans la rue.
Non, mais justement, j'y viens. C'est pour ça que j'ai dit tous les retraités en règle générale. Mais après, c'est vrai que le seuil est assez bas.
Il 1200 euros.
Oui, en 1350 d'ailleurs. 1200, il n'y a pas beaucoup de situations. Deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a quand même des compensations qui vont être... parce qu'il faut mettre tout ça, c'est une seule poche, un fonds pour les Français. Hein. Les baisses de charges quand vous êtes salarié, les hausses de CSG pour tout le monde, et puis la suppression de la taxe d'habitation pour 80% de gens qui les payent. Donc c'est vrai, et je pense que le gouvernement en a conscience, qu'il y a peut-être un effet ciseau de gens qui ne sont pas salariés parce qu'ils sont retraités, ne payent déjà peut-être pas la taxe d'habitation, donc ils vont pas avoir un gain parce qu'il n'y a pas de suppression, ils la payent déjà pas, et qui vont avoir cette hausse de la CSG. Oui, voilà, j'ai conscience de cela.
Et alors, et comment il faut...
Ben justement, c'est des discussions qu'on va avoir beaucoup dans le budget, vous allez voir, ça va être très long. On va être très imaginatif, mais il faut aussi avoir une...
Il faut relever le plafond?
Mais c'est facile de... Alors ça, c'est vraiment un truc de démagogue, je vais vous dire oui.
C'est ce que François Bayrou a dit
là, depuis François
deux,
Bayrou.
Trois jours. Oui, depuis deux, trois jours, il dit il faut relever le plafond.
Oui, mais le problème, c'est qu'il doit savoir comme moi... Non, pas François Bayrou en général. J'en connais d'autres qui sont plus que François Bayrou. Bon. Je vous dis juste que je peux vous dire ça facilement à l'antenne, comme ça c'est tranquille. Les gens disent, voilà, il a compris, il est gentil, lui, il va remonter le plafond. La vérité, c'est que le produit de l'impôt, si vous remontez énormément le seuil, va être bien sûr...
Vous pourriez nous dire aussi qu'au fond, parce que c'est ce qu'assume le gouvernement et l'Élysée, que les baby-boomers, puisque ce sont en partie eux qui sont concernés, doivent maintenant assumer le fait qu'ils ont été en partie privilégiés pendant toute une partie de leur vie et que maintenant c'est à eux de payer pour que ce soit pas d'autres qui payent. Est-ce que ça on peut le dire?
Oui.
Ou c'est un sujet tellement tabou que...
Pas du tout. Non, je vous le dis clairement, je l'ai dit avec mes mots à moi. Je vous dis, voilà, la différence aujourd'hui qu'il y a entre quelqu'un qui va bien, qui a 65 ans, qui a 30 ans peut-être d'espérance devant lui, d'espérance de vie devant lui, qui a du patrimoine, qui est propriétaire, qui a jamais connu une grande difficulté. Son fils est très fort. C'est vrai, Bruno Le Maire l'avait dit très clairement, il appelle à un peu de solidarité.
Les gens qui défilaient hier, c'est des gens, plutôt d'ailleurs, souvent des retraités de la fonction publique, et qui ont des pensions qui sont modestes.
Et c'est ça,
pour qui prendre 30 euros de plus par mois, c'est un problème, quoi.
C'est pour ça que j'entends ça. Et la question de Jean-Michel Apathy, c'est donc pas pour globalement cette classe d'âge qui a été quand même plus privilégiée, mais pour la catégorie d'entre eux, et ils sont nombreux, bien sûr, qui ont des petites pensions de retraite et qui vont se retrouver impactés par la hausse de la CSG non compensée. Ceux qui perdront la taxe d'habitation, encore une fois, ça se compensera très largement, mais les autres, c'est plus compliqué. Vous savez, encore une fois, moi, je préférerais, ça serait plus facile à vous dire. Ah oui, pas de problème. François Fillon, c'était la hausse de la TVA pour tous. C'est un choix. En tout cas, ce choix privilégié, le travail, et notamment de redonner du pouvoir d'achat aux actifs. Il faut s'en occuper. Quand je vois, moi, autour de moi, c'est rarement les gens qui ont 65 ans qui sont plus dans la difficulté de ceux de 35.
Un dernier mot sur votre ami Premier ministre, Édouard Philippe. 38% des personnes interrogées dans un sondage Odoxa pour France Info, 38% sont incapables de dire le nom du Premier ministre. Vous avez un conseil à lui donner pour qu'il soit plus connu, populaire?
Alors d'abord, pour bien le connaître, je ne crois pas que ça soit le fait d'être connu et populaire qui guide l'action d'Édouard Philippe le matin quand il se lève.
Dans ce boulot-là, ça peut aider.
Je suis pas sûr. Bon. Dans ce boulot-là, ce qui compte dans ce boulot-là, c'est d'avoir des résultats, de se faire une feuille de route et d'essayer de réparer le pays. Et je sais qu'il est au travail et à la tâche tous les jours sur ce sujet-là. Deuxièmement, l'émission d'hier soir a participé à coup sûr. Je l'ai trouvé combatif, je l'ai trouvé précis. Je trouve qu'il a donné le cap qu'est le sien. Au fond, vous savez, Bruce Toussaint, on fait de la politique pour réparer ce qui va pas, et ceux qui, je le disais au démarrage de l'émission, subissent de plein fouet ce qui va pas, c'est les plus fragiles. Toujours. Vous savez, quand vous êtes riche, là, quand vous dites la politique pour les riches, ceux-là, quand l'hôpital public va pas bien, c'est moins grave, parce qu'ils peuvent aller à l'hôpital privé.
Et justement, on dit que le budget les favorise.
Mais pas du tout. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut qu'on rééquilibre nos comptes publics. On arrête d'avoir ce système qu'on n'a jamais réussi à exporter ailleurs en Europe. Personne ne nous copie sur le sujet. Qui nous amène du chômage de masse et de la pauvreté. Et on est en train de s'attaquer, ce gouvernement est en train de s'attaquer à ce que les autres n'ont pas fait avant, par incapacité politique.
C'est ce que vous avez dit, j'ai noté cette phrase tout à l'heure, ce gouvernement fait ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans.
C'est vrai.
Et je me disais, si Nicolas Sarkozy, que vous avez soutenu, nous écoute, il a dû se dire, il a un peu gonflé sur l'air.
Mais non.
J'imagine.
On va prendre un exemple.
Ah, je sais pas, mais non.
On va prendre un exemple, je vais être encore plus précis. Quand je parle de la réforme du Code du Travail, qui vient d'être engagée par ordonnance, j'ai le courage de vous dire la vérité que tous les Français ont compris. Ouais. C'est d'ailleurs, je vais vous dire, avoir compris pourquoi le RPF, et LR, pardon, et le Parti Socialiste ont été éliminés dès le premier tour. Parce que 5 ans Jacques Chirac, 5 ans de gouvernement de Nicolas Sarkozy, 5 ans de Hollande, ces réformes-là n'ont pas été faites. Ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy n'a rien fait, ça ne veut pas dire que ça a été un mauvais président de la République. Je dis juste à tous ceux qui critiquent ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est que sur la réforme du Code du Travail, quand M. Wauquiez était ministre de l'Emploi, il ne l'a pas faite. Quand M. Hollande était président, il l'a réclamé, et bien aujourd'hui elle est faite. Et donc il devrait s'en réjouir.
C'est vous qui avez cité Laurent Wauquiez, donc candidat à la présidence des Républicains, c'est toujours un peu votre parti. La crainte de ceux qui s'opposent à Laurent Wauquiez dans cette compétition au sein des Républicains, c'est de ne pas pouvoir être candidat faute de parrainage. Mmh. On écoute Daniel Fasquelle qui a envie lui-même d'être candidat, il n'est pas sûr qu'il le sera.
Je tire la sonnette d'alarme parce que si les choses continuent ainsi, il n'y aura qu'un seul candidat, Laurent Wauquiez, et ce serait tout à fait dommage.
Voilà, c'était Daniel Fasquelle sur Sud Radio. Vous allez donner un parrainage, vous, à l'un des candidats en liste?
Non, moi je ne m'occupe pas de ça. Pourquoi ça marche?
Vous
pas
allez voter?
Non, je ne vais pas
non
voter
plus.
Non plus.
Bon, vous n'êtes plus chez les Républicains, alors c'est
bah
fini.
Non, voilà.
De fait.
Je ne me reconnais plus du tout dans cette famille politique. Je pense qu'elle a tourné le dos à ce qu'elle était, un parti européen, progressiste. Ah oui, ça c'est clair. Je me considère aujourd'hui comme parlementaire.
Mais c'est clair. C'est-à-dire, il n'y a pas un acte formel. C'est, voilà, le dites là, voilà, j'ai quitté le parti, le parti dans lequel j'ai été pendant combien d'années?
Non, mais c'est pas très important. Enfin, je comprends vous, ça, vous regardez ça comme ça. Moi, j'ai jamais eu besoin des partis pour
c'est
me faire
élire. C'est vous notre invité, donc vous avez été combien d'années membre des Républicains?
Mais moi, c'est pas les partis politiques. Je pense pas aux Républicains le matin quand je me lève.
Vous avez été combien d'années membre de
Oh, je l'ai été. Ils m'ont viré quand je me suis présenté face à Claude Guéant.
Ah, oui,
ils m'ont réintégré quand j'ai gagné. Et puis là, c'est pareil, on n'est plus d'accord.
20 ans, c'est une page.
Depuis la création, ouais.
Oui, ça.
Mais c'est pas ça qui a fait ni mon arrivée à l'Assemblée, ni mon engagement. J'ai essayé de donner 2 ans de ma vie.
Je n'aurais pas dû dire, en effet, en vous présentant tout à l'heure.
Les Républicains.
Députés, les Républicains constructifs.
Je suis député membre des constructifs à l'Assemblée nationale. Je suis un homme de droite et j'essaye de
tous
ne pas...
Tous les constructifs sont sortis des Républicains juste pour
comprendre. Non, on n'est pas sortis d'ailleurs factuellement.
Vous venez de nous dire, vous n'y êtes plus.
Enfin, en tout cas, je ne reprendrai pas ma cotisation, je ne paierai pas ma cotisation en 2018 au Parti des Républicains, je vous le confirme.
Vous allez adhérer à En Marche?
Écoutez, nous travaillons en ce moment à savoir comment tout ça va se restructurer. Vous savez, il y a une forme de déliquescence de tous les partis politiques d'ailleurs.
Mm-hmm.
Vous savez, si on a fait des primaires, c'est bien que les partis politiques étaient aussi discrédités devant les Français, tous. Et de cette déliquescence qui n'est pas complètement finie, il va y avoir une recomposition, une réorganisation. Et donc nous, on travaille à l'idée, vous le savez, de la création d'une formation politique européenne, progressiste, qui fait l'alliance avec l'extrême droite une barrière infranchissable, comme elle l'a été pendant 20 ans, jusqu'à ce que M. Wauquiez et ses amis cassent cette digue. Voilà.
Vous allez créer un mouvement, pour que ce soit clair. Vous allez créer un mouvement.
Mais je ne peux pas encore vous le dire, mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, une décision sera prise.
C'est
certains
possible.
Pensent qu'il faut aller en marche.
C'est possible.
Oui, c'est possible.
Mais, ouais.
Bon. Mais on n'a pas compris si vous allez adhérer à En Marche ou pas.
Mais je vous l'ai dit, d'ici la fin de l'année, il y aura une décision qui sera prise. Soit on ira à En Marche, soit on créera une formation politique. Aujourd'hui, on travaille quand même pas mal à l'idée de créer un mouvement politique qui soit un parti européen, de centre-droit, de droite, et qui permette de rassembler tous celles, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la dérive qui est celle qui est prise par les Républicains. C'est un joli mot, les Républicains, mais il faudrait se comporter comme ça.
Là, c'est plus clair.
C'est dit.
Là, c'est plus clair.
Merci, c'est un bon intervieweur, c'est pour ça.
8h50, restez avec nous Thierry Soler. Tout de suite, l'essentiel de l'info avec Agathe Mahuet.
C'est l'un des tout derniers fiefs de Daesh en Irak, la ville d'Awija dans le nord du pays. L'armée irakienne vient d'annoncer avoir lancé un assaut contre cette ville d'Awija pour la récupérer. Dans le même temps, en Syrie voisine, au moins 58 combattants du régime ont été tués dans des attaques menées par le groupe État islamique, essentiellement dans la province de Homs. Elles étaient attendues, ces discussions. Les syndicats de routiers en sont sortis effarés hier soir au ministère des Transports. La profession reçue après 2 journées de blocage, avec à la clé une mauvaise surprise, donc leurs primes liées notamment aux frais de route sont remises en cause. Leur mouvement de grève pourrait donc se poursuivre. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, sur un autre dossier aujourd'hui, attendu de pied ferme dans la vallée de l'Arve, avec Nicolas Hulot à l'écologie et Agnès Buzyn pour la santé. Le gouvernement au chevet d'un territoire excédé par sa pollution. Et puis l'ONU qui dénonce le cauchemar humanitaire des Rohingyas lors d'une rare réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Antonio Guterres a réclamé l'arrêt des opérations militaires dans le nord de la Birmanie contre ces rebelles musulmans fuyant depuis des semaines le pays.
France Info. Thierry Soler, donc député des Hauts-de-Seine, député constructif et plus républicain, voilà, au moins qui est clair. Ce matin, il est invité de France Info avec Jean-Michel Apathy.
Nous allons revenir à l'émission politique d'Edouard Philippe pour aborder 2 sujets qui ont été évoqués dans cette émission. Le premier concerne la procréation médicale assistée. Edouard Philippe, qui a été longtemps opposé à la PMA, a dit hier soir que peut-être il avait évolué et qu'il y était favorable. On l'écoute.
Je pense que en écartant résolument la marchandisation que vous dénoncez et que je dénonce tout autant que vous, on peut se poser la question. En tout cas, moi, je suis très ouvert. J'aimerais bien qu'on le fasse et qu'on le fasse en 2018, tranquillement, de façon apaisée, en posant les arguments sur la table.
Voilà, qu'on fasse la procréation médicale assistée. Édouard Philippe était face à Jacques Testard, qui a été le pionnier en France de la procréation médicale assistée. Voterez-vous une réforme introduisant la procréation médicale assistée, la PMA, pour toutes les femmes? Vous la voterez en tant que députée?
Bon, d'abord, c'est des sujets qui sont très compliqués. Hein.
Alors ça ne nous a pas échappé.
Ouais. Non, mais voilà, mais ma question est simple, pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire...
Non, mais on ne va pas refaire le sujet, mais ma question est simple.
Non, mais je vais aller très vite, en moins de 12 secondes sur votre réponse, mais quand même, sur un sujet si compliqué, je vais vous dire, c'est très compliqué. Et donc, voilà, vous répondre aussi facilement. Moi, mon idée essentielle, c'est que la PMA, d'abord, ça existe déjà. En France, une femme peut faire de la PMA. Donc, le sujet dont on parle, c'est l'élargissement de la PMA à d'autres femmes que des femmes qui sont en couple et qui ont un problème pour concevoir un enfant naturellement.
Des couples homosexuels ou des femmes seules qui assouvissent un désir d'enfant.
Ça veut dire une femme seule, une femme homosexuelle, voilà. Mais bon, pourquoi on créerait entre les femmes une différence d'accès à cette technique qui permet d'avoir un enfant? Là où j'ai les idées plus claires...
C'est sur la GPA,
mais c'est sur la GPA, c'est pas votre question. Oui. C'est mon opposition totale. Mais donc sur la PMA, je n'ai pas, moi, de compréhension réelle à ce stade d'un immense problème de permettre à d'autres femmes que celles à qui ont déjà l'autorisation légale de le faire en France, d'avoir accès à cette procréation médicalement assistée. Et je me vois pas m'immiscer dans la vie de cette femme pour lui demander sa sexualité, avec qui elle vit, comment elle vit. Enfin voilà, une femme.
Donc on a pu penser que tout ça, parce que votre parti a été opposé, globalement, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas défilé vous.
Non, jamais, non, j'étais pas avec un bouson rouge sur les Champs-Élysées.
Au mariage homosexuel en 2013, et là maintenant, il n'y a plus de problème. Même sur des sujets que vous définissiez au départ de votre réponse comme très compliqué.
Ah, c'est compliqué. Hein.
On comprend que vous pensez que les mentalités sont prêtes, on comprend qu'il n'y aura
pas
d'obstacle.
Pas de mentalité prête.
Il n'y aura pas d'obstacle pour voter cette réforme.
Non, non, je ne dis pas ça non plus. D'abord, je vais lire avec grand intérêt l'avis du Conseil national d'éthique, parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui vont sûrement éclairer tout le monde, et notamment le parlementaire que je suis sur ces sujets. Je vous dis juste que moi, je n'essaie pas de faire des amalgames. Vous voyez, les amalgames, c'est du populisme. Je n'ai pas de difficulté réelle, je n'en ai jamais eu, avec le fait que deux hommes, deux femmes, deux personnes puissent s'unir en fonction de leur sexualité. La PMA, c'est un sujet très complexe sur un plan éthique, morale, est autorisé en France. Encore une fois, je veux le rappeler à ceux qui nous écoutent, parce que j'entends souvent « Ah, la PMA, c'est une horreur, c'est interdit ». Mais pas du tout. Les femmes en France peuvent avoir accès sur prescription médicale à cette PMA. Et donc, l'ouvrir à d'autres femmes, je vois pas pourquoi un député s'y opposerait, vous voyez. Enfin, ça me paraît quand même une manière de penser originale. Et la GPA, en une phrase, c'est vraiment la femme pauvre, pour moi, qui... Alors, on me parle d'une GPA éthique, qui serait quelque chose qui marcherait bien, c'est-à-dire par altruisme, une femme qui, pas pour l'argent, fait ça. Enfin, globalement, je vois tellement de cas où c'est la femme pauvre, souvent dans un pays très pauvre, qui est très jeune, souvent d'ailleurs sous la tutelle de son père, de son frère, qui lui loue son utérus, parce qu'elle a un problème d'argent et on échange d'argent. Mais c'est horrible. Enfin, si un pays comme la France faisait quelque chose comme ça, légalisait ça, les lumières, ça serait bien éteinte.
L'autre sujet que nous voulions évoquer en cette fin d'émission est relatif à l'écologie. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, a expliqué que la subvention du gouvernement pour les vélos électriques, eh bien, c'était terminé. Il l'a dit hier sur RTL.
Non, mais nous avons considéré que ce n'était pas à l'État de continuer à subventionner le vélo électrique dans la mesure où, quand il l'avait fait, les collectivités locales ne le faisaient pas. Maintenant, beaucoup de collectivités locales le font, et je sais que Nicolas Hulot travaille avec les collectivités locales pour décentraliser
son aide. Vous filez le bébé aux collectivités locales?
Non, mais avec des aides particulières, et notamment, nous prévons concentration sur la prime auto, qui sera de 2000 euros, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais atteint ce niveau.
Alors, les écologistes dénoncent cette fin de subvention des vélos électriques. On nous dit que l'écologie, c'est très important. Et là, il y avait une mesure qui a d'ailleurs permis d'accélérer la vente de ces vélos.
Ouais, c'est mais c'est d'ailleurs pour ça que ça servait à ça. Au fond, je veux dire, une politique publique, ça a un sens. Et quand les gouvernements précédents ont engagé donc cette prime pour les vélos, l'achat de vélos électriques, c'était pour lancer une filière qui n'existait pas. Ça n'existait pas, les vélos électriques, ou quasiment pas.
Et maintenant,
il y en a 25 000, d'accord. Donc les productions ont augmenté, donc les coûts ont baissé, et donc on n'est pas dans une économie administrée en France, ce n'est pas la Corée du Nord. On n'a pas vocation à subventionner tout le temps. Jean-Michel Apathy, 2 200 milliards de dettes. Voilà. Donc moi je veux bien qu'on fasse open bar, qu'on donne de l'argent dans tous les sujets, c'est pas comme ça que ça peut marcher intelligemment. Ce qu'il faut par contre, c'est que l'État lance des politiques publiques. Et parfois l'action publique, la dépense publique, elle sert à ça, à rentrer dans la sphère du privé pour forcer à ce que ça démarre. Donc, et ça a été fait sur le vélo, c'est très bien.
Si on fait le bilan de cette émission, Thierry Soler, vous soutenez sur tous les plans le gouvernement, vous en êtes... un avocat résolu, vous présentez des arguments, mais je le dis à l'attention de ceux qui nous écoutent, à l'Assemblée nationale, vous êtes étiqueté comme un opposant à la politique du gouvernement.
Oui, mais ça ne durera peut-être pas si vraiment le gouvernement
fait bien. C'est pour ça aussi que la politique déroute.
Ah non, mais alors je crois pas du tout. Enfin, je comprends que vous disiez ça. Si
il faut
vous
que vous reconnaissiez que vous êtes aujourd'hui un membre actif de la majorité.
Non, pas du tout. Moi, j'ai dit à mes électeurs, à Boulogne-Billancourt, que je suis un homme de droite, que s'ils votaient pour moi, je voterais toutes les réformes et je les ai listées si elles m'étaient présentées, que je m'opposerais avec la plus grande force. Et croyez-moi,
mais
j'espère
là,
que ça
vous
n'arrivera
vous
pas.
Mais là, vous opposez sur rien, voilà.
Mais pour l'instant. Donc, mais croyez-moi, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ce que j'ai toujours porté comme idée, je le dirai avec la plus grande clarté. Et si ils font tout bon tout le temps, eh ben je m'en réjouirai. Et oui, je viendrai vous voir en vous disant, bah, écoutez, c'est formidable. Je suis donc dans la majorité.
Si tous les opposants sont comme vous, le gouvernement peut dormir tranquille.
Il dort pas, merci beaucoup Thierry Solaire, merci d'avoir été notre invité
merci
ce matin
à vous.
Sur France Info.